rien ne peut remplacer la parole d'une personne ayant vécu un choc plus ou moins grave, plus ou moins douloureux. Aussi, l'association Élie m'a proposé de tendre mon micro et d'enregistrer ces témoignages. Déchocage est le résultat de ces rencontres.
On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'annonce de ma maladie. Je pense que mon expérience va servir à d'autres, ou en tout cas certains vont se retrouver dans cette expérience.
Avant qu'on parle de l'annonce en elle-même, est-ce que toi tu peux te présenter en deux, trois mots ?
Oh oui, bien sûr. 72 ans, 3 enfants, 6 petits-enfants, ancien directeur informatique dans des grands groupes et ancien dirigeant d'entreprise dans le domaine de la création de logiciels. Et jusqu'au 1er mars 2018, sans maladie.
D'accord. Alors, si tu n'avais pas de maladie, qu'est-ce qui t'a amené à consulter un médecin ?
Écoute, un matin, je me découvre des ganglions dans l'aine. Je me dis que c'est pas trop grave, mais les ganglions persistent. Quelques temps plus tard, je vais voir mon médecin traitant qui prend la chose tout à fait à la légère, de la même manière, en me disant non, c'est pas grave, on va voir ça dans quelques mois, si jamais ils ne sont pas partis. Donc, quelques mois plus tard, je retourne voir mon médecin traitant parce que les ganglions étaient toujours présents et bien présents. Là, il me propose de me faire une ordonnance pour une analyse de sang, ce que je fais. Et je retourne le voir avec l'analyse de sang. Regarde l'analyse de sang, il me dit par acquis de conscience, ce serait quand même bien que vous consultiez un hématologue. Vous avez le choix de descendre soit à Paris, soit vous avez un hôpital qui n'est pas trop loin de chez vous. Choisissez.
D'accord, il n'était pas spécialement en stress, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont ta maladie t'a été annoncée ? Donc là, si j'ai bien suivi l'histoire, tu vas voir l'hématologue.
Oui, c'est ça. Donc je vais voir l'hématologue. Je rencontre un type qui était sympathique, assez empathique. Il me dit écoutez, avec les analyses de sang que vous avez là, c'est pas suffisant. Il faut quelque chose d'un peu plus, précis. Donc il me recommande d'autres analyses de sang que je fais d'ailleurs au sein de l'hôpital, me propose un scanner et un prélèvement fait directement dans les ganglions.
Et les examens ont été faits le jour même ou il y a eu plusieurs rendez-vous ?
Ils ont été faits une quinzaine de jours avant le rendez-vous que j'ai avec l'hémato, je l'avais rencontré, les examens, etc. Je le retrouve 15 jours plus tard et me donne rendez-vous pour le 1er mars 2018. J'arrive à l'hôpital, salle d'attente. Alors la salle d'attente dans cet hôpital-là, une salle d'attente un peu particulière parce qu'ils ont une grande place où les différents cabinets, les différents médecins pour les différentes pathologies sont tout autour de la salle d'attente. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être 20-30 personnes qui attendent, chacun avec pour les pathologies différentes. Moi, malgré tout, je dois attendre à peu près une heure avant de pouvoir voir le médecin. Donc, à ce moment-là, c'est mon tour. Je rentre dans un bureau qui doit faire 3 mètres sur 3, un bureau assez étriqué. Et je retrouve mon hématologue qui me demande de m'asseoir. Je m'assois. Il ouvre un dossier, il regarde et il me dit « Oh, ça, c'est pas bon. » Voilà. Donc, à ce moment-là, le téléphone sonne. Et il commence à entamer une discussion qui dure entre 5 et 10 minutes avec un collègue. Donc le collègue, je le vois pas parce qu'il est à l'autre bout du fil. Et le collègue en question doit lui poser des questions tout à fait pertinentes sur une autre pathologie ou tout au moins sur une pathologie que je ne comprends pas. Mon hémato, enfin celui qui est en face de moi, dit « Mais tu devrais regarder sur Internet, tu vas trouver, il y a des tas d'informations, etc. » Et moi, pendant ce temps-là, j'attends.
Mais t'as pas eu envie de lui demander de s'occuper de toi plutôt que de son collègue ? Enfin, tu faisais quoi pendant ce laps de temps ?
Je regardais les arbres à côté, parce qu'il y avait des arbres magnifiques qui étaient enneigés, puisque malgré qu'on soit le 1er mars, il avait beaucoup neigé la veille, et il y avait un soleil, un ciel bleu magnifique, un soleil absolument dingue. On se serait cru au sport d'hiver, mais moi j'attendais en tout cas, quoi qu'il en soit. Ouais. Et pendant ce temps-là, moi je commence malgré tout à me demander ce qu'il a bien voulu dire avec « c'est pas bon ».
Mais tu m'étonnes.
Là, en fait, ça y est, il revient vers moi, il termine sa conversation, il regarde l'ordinateur, son ordinateur qui est en face de lui, il me dit « Ah, mais là, c'est pas, ça ne va pas le faire non plus, c'est que j'ai pas le mot de passe, ils viennent de changer le système d'information, et j'ai pas le mot de passe. » C'est un sketch.
T'as pas eu envie de l'aider avec ses problèmes informatiques, de régler le problème rapidement ?
Ah bah si, je peux te dire que j'ai vraiment eu envie de l'aider. Là, il finit quand même par me dire ce que j'ai, donc il me dit, bah écoutez, vous avez un lymphome indolent, c'est pas le pire des cancers. Alors non, il me parle pas de cancer d'ailleurs, il me dit c'est pas le pire des lymphomes. Moi, j'avais fait la traduction cancer du système immunitaire, parce que j'avais appris ça peut-être un an plus tôt. Mmh. Et il me dit, bah écoutez, de toute manière, on se revoit dans un an, pas de traitement, au revoir monsieur. Ah, bah, voilà, à peu près.
Waouh, pas très. Ça doit être ultra flippant de s'entendre dire on va pas te soigner, il y a pas de traitement. Enfin, qu'est-ce que tu fais de ça? Enfin, c'est pas un moment de sidération?
Ah si, je te confirme, c'est un moment de sidération. Bon, je suis assez blindé pour ce genre de choses, donc j'ai pas trop mal réagi, j'ai même plutôt bien réagi. Je suis sorti comme ça, mais je me suis dit, mais si tu tombes sur quelqu'un de fragile, on t'annonce un cancer. Ceci étant, il ne m'avait pas donné beaucoup d'explications. Hein. Mmh. Donc, même, je dirais qu'il ne m'a pas donné d'explications du tout. Je ne les ai peut-être pas demandées. Hein. Comme tu dis, tu parlais de sidération. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on t'annonce quelque chose comme ça, quand on fait référence à un cancer, forcément, il y a un moment qui est assez difficile à encaisser.
Bah, surtout que, sauf erreur de ma part, en plus, tu as le plan cancer de Chirac de 2003. Normalement, on prévoit une assistance psychologique. Il n'y a pas une réaction des infirmières, comment ça s'est passé?
Ah non, je suis sorti du bureau tranquillement. On m'a dit, bah, écoutez, ça serait bien que vous preniez rendez-vous pour dans un an. Aucun soutien psychologique. Alors, peut-être que si j'avais eu un lymphome très très grave où il fallait me prendre en charge immédiatement, peut-être qu'on aurait fait quelque chose, mais j'ai pas eu l'impression que ces infirmières-là étaient particulièrement douées d'un sens psychologique. Mmh. Donc elles m'ont juste inscrit, et moi, en m'inscrivant pour le rendez-vous, je me suis dit, bah, je ne reviendrai pas, c'est certain.
Oui, tu m'étonnes, mais là, tu te retrouvais tout seul.
Je me suis retrouvé tout seul. Je suis sorti de l'hôpital tout seul. J'ai repris ma voiture. Je suis rentré à la maison. Alors, sur le chemin du retour, j'ai appelé mon épouse qui l'a peut-être pas aussi bien pris que moi je l'ai pris. Mais tout de suite, sa réaction, ça a été de dire, il faut un autre avis. Ce en quoi j'étais complètement d'accord avec elle, il fallait un autre avis.
Donc t'en parles avec elle, est-ce que t'en as parlé à tes proches, le reste de ta famille, tes amis, éventuellement tes collègues de travail?
Ah oui, ben en rentrant, bon alors ça s'est pas passé immédiatement, enfin j'ai appelé mes enfants assez rapidement, j'ai appelé, au fur et à mesure des jours qui passaient, j'ai appelé des copains, les amis, des copains, pas les collègues de travail parce que je ne travaillais plus. Mais surtout, ce qui s'est passé après, c'est que mon épouse donc avait décidé qu'il fallait un deuxième avis. Le deuxième avis, on l'a pris auprès de l'hôpital Saint-Louis. Et surtout, ce qui a été très intéressant dans la suite du parcours, c'est que grâce à Alix, on a tout de suite contacté une association de patients qui s'appelle Ellie.
D'accord, donc Alix, ton épouse, voilà. Si jamais je rattache les wagons là une fois de plus, et c'est pas compliqué à expliquer ça, le fait que oui, je suis malade, mais pour l'instant je suis pas soigné.
C'est pas toujours facile à expliquer aux gens que vous êtes malade et qu'on vous soigne pas, donc c'est ce qu'on appelle la surveillance active, c'est-à-dire que on va chaque année, la fréquence est différente selon le degré de la maladie, on va proposer une ordonnance pour faire une analyse de sang, mmh. Et on ira voir son médecin traitant qui analysera l'analyse de sang, enfin qui fera un diagnostic, voilà, et qui, si les choses devenaient plus embêtantes, s'aggravaient, si la maladie s'aggravait, à ce moment-là, on doit reprendre contact avec l'hématologue et commencer un traitement, soit de chimio, soit d'immunothérapie, enfin selon
la l'évolution, voilà. D'accord. Okay. Ça te dérange pas si on revient sur le médecin, parce que moi, je suis toujours un peu sidéré de ton annonce. Pour toi, vraiment, de ton avis, qu'est-ce qui a manqué à ce médecin pour que ce soit un bon médecin, dans le sens, je ne parle pas de ses qualités de vraiment en tant que médecin, mais plus l'aspect humain, de comment est-ce qu'on fait en sorte que l'entretien se passe le mieux possible?
Eh ben, il en avait absolument. Alors, si je dois résumer les différents points sur lesquels il devrait s'améliorer, c'est, entre autres, il n'avait pas préparé son entretien. J'aurais jamais reçu quelqu'un sans avoir en face de moi la totalité du parcours du patient. Et surtout, si le téléphone sonne, je réponds pas. Clairement, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est qu'il ne m'a absolument pas demandé si j'avais compris ce qu'était la maladie. À aucun moment, il m'a donné des... Alors, j'ai pas demandé, je reconnais, mais il...
Oui, mais c'est peut-être pas ton rôle à ce moment-là, de toute façon, à toi, qui est malade de faire ça. Je te rejoins complètement.
Je pense aussi qu'il a été incapable de se mettre à ma portée. C'est-à-dire qu'il m'a asséné une information sans savoir si je l'avais comprise, sans essayer d'imaginer ce que moi je pensais à ce moment-là. Bon, je sais que lui, il était déjà dans la suite, comme il n'y avait pas de traitement, bon, c'était pas très important, mais peut-être que s'il y avait eu un traitement, il aurait commencé à imaginer comment me soigner. Mais moi, pendant ce temps-là, ce à quoi je pense, c'est qu'est-ce que va devenir ma vie? Il y a un changement, hein, on passe à un cap, on passe à autre chose. Est-ce que ma vie va changer? Est-ce que je vais devoir m'arrêter de faire telle et telle chose? Voilà. Il ne s'est pas posé la question.
Pour moi, ça, cette partie-là, enfin, manque clairement d'empathie. C'est là où on se dit que l'une des tâches, pour moi, qu'il aurait dû mettre en place, c'était effectivement de bien vérifier, c'est ce que tu disais tout à l'heure, savoir si tu avais compris ou pas ce qui se passait.
Ouais. Alors l'autre point, il s'est pas préoccupé de savoir si j'étais accompagné physiquement pour rentrer à la maison, c'est-à-dire que normalement il sait qu'il y a un choc, psychologique, hein, de toute manière. On parlait de sidération tout à l'heure. Il s'est pas demandé est-ce que vous allez rentrer tout seul chez vous, etc. Il m'a pas demandé si j'étais accompagné moralement. Est-ce que vous vivez en couple? Est-ce que vous avez des gens à côté de vous qui peuvent vous aider dans ce moment difficile? Il s'est pas posé la question. De la même manière, je dirais qu'il m'a pas conseillé soit de soins, de support, enfin d'aller voir un psy éventuellement, soit m'envoyer vers une association de patients. Je dirais qu'en un mot, ça a été un mauvais médecin, même si son diagnostic était bon, puisqu'il a été confirmé après à Saint-Louis. Il s'était absolument pas trompé, ses mots étaient exactement les mêmes. N'empêche que pour moi, c'est pas un bon médecin.
D'accord, c'est la manière dont lui s'est exprimé, la manière dont il t'a pris en compte, changeait complètement finalement ces mots qui étaient éventuellement les mêmes.
Absolument, après j'ai été pris en compte d'une manière tout à fait différente, avec la confirmation du diagnostic et autres, ce qui était quand même rassurant. De la même manière, on m'a dit, il n'y a pas besoin de vous soigner, surveillance active, ça suffit. Mais une impression de professionnalisme qu'il n'y avait pas la première fois. Alors que, je répète, ce médecin était certainement un très bon médecin aussi. Mais il n'a pas, su faire passer son message. Donc l'annonce, elle est fondamentale. Quand on regarde mon parcours, et je pense que mon parcours va parler à des tas de gens. Je le disais en début d'interview, je pense que ce phénomène d'annonce, il est... Pratiquement, dans la plupart des cas, j'ai beaucoup parlé cet an dernier avec des personnes qui ont à peu près le même genre de maladie ou de pathologie ou d'autres pathologies, l'annonce se passe très souvent. Dans 90%, là j'ai dû parler avec une vingtaine de personnes, 90% du temps, l'annonce se passe mal.
D'accord. Oui, en fait, pour revenir sur le deuxième médecin, c'est le côté professionnel qui donne ce côté solide et rassurant finalement à ce qui va jouer par la suite.
Si le médecin, au cours de l'annonce, réagit avec empathie, prend soin de son patient, les relations qui s'établissent sont des relations de confiance. Ça fait que lorsqu'il y aura des traitements à faire, lorsqu'il y aura des choix à proposer, le patient, s'il est en confiance, s'il a toute confiance dans son médecin, le suivra sur ses recommandations. Si jamais l'annonce est mal passée, si dès le départ le patient n'a pas confiance dans son médecin, les relations à terme ne seront pas bonnes. Et on sait très bien que quand on fait face à une maladie, surtout quand elle est grave, la confiance est un des facteurs de réussite.
D'accord. Est-ce que malgré tout, il peut y avoir une bonne nouvelle? Alors je sais, l'annonce c'est toujours quelque chose de terrible, mais est-ce qu'il peut quand même y avoir une bonne nouvelle dans le cadre de l'annonce?
Alors oui, si on t'annonce que tu es en rémission ou que tu es guéri, je vais ponctuer cette annonce. C'est quelque chose d'assez rigolo parce que j'ai vécu, donc quand je suis allé voir donc la deuxième année, je suis suivi par le professeur, me dit écoutez, on ne se voit plus puisque votre maladie ne progresse plus. Donc c'était quand même une très bonne nouvelle. Pour l'instant, en tout cas, elle progressera peut-être plus tard, mais pour l'instant, elle ne progresse pas. Et je me suis retrouvé un peu abandonné, un peu orphelin, en me disant ça y est, on s'occupe plus de moi. Et je pouvais imaginer quelqu'un qui a été suivi pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans sur une chimio qui dure du temps, enfin. Donc avec tout le support des infirmières, des médecins, tout le corps médical qui est là pour vous accompagner ou t'accompagner dans cette dure épreuve. Et du jour au lendemain, on dit ça y est, vous êtes guéri ou tu es guéri, au revoir, tu retournes chez toi. Et il y a un phénomène d'abandon. Donc une bonne nouvelle, une annonce de bonne nouvelle peut aussi devenir temporairement une mauvaise nouvelle. Ceci étant, je préfère qu'on me dise que ma maladie va bien plutôt que... mais on reste en rapport parce qu'elle ne va pas bien, voilà.
Est-ce que, avant de partir, tu peux rapidement nous parler d'Eli? Comment tu les as connus?
Eh bien, écoute, c'est grâce à Alix qui, dès que je l'ai appelé pour lui dire que j'avais ce lymphome, a cherché sur Internet qui pouvait lui donner certains conseils, des renseignements et autres. À l'époque, on était tombé sur France Lymphome Espoir, qui est devenu depuis Eli. C'est une association qui est très importante dans le domaine du lymphome, très présente. Et puis maintenant, puisque Eli est devenu aussi, a aussi intégré une autre maladie qui s'appelle la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström, ces différentes maladies sont représentées. Donc cette association, c'est une association de patients qui est très active, qui s'occupe beaucoup de l'information, qui fait du plaidoyer. Enfin bon, je pense que si vous voulez en savoir plus, il faut aller directement sur le site Eli.fr. Donc c'est E2LY.fr et vous en saurez plus. Mais je sais qu'ils m'ont été d'un grand secours et que je pense que je l'ai rendu puisque je me suis investi dans cette association pour apporter ce qu'eux m'ont apporté.
Un énorme merci pour ton témoignage, Jeff.
Écoute, c'était avec plaisir.
Salut.
À bientôt.
Déchocage est réalisé par TMDJC Création et produit par l'association Eli. Retrouvez la conversation entre Jeff et Sébastien ainsi que l'ensemble de nos productions sur Eli.fr. E2LYE.fr. TMDJC Creations.